Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
Respect. En voilà un drôle de mot. Enfin drôle. Non, voici un mot très paradoxal. Comme ça, vite fait, le respect en inspire du respect, et même il en impose. Pourtant, face à ce mot, nul ne peut s'empêcher de ressentir comme un malaise. Pour le dire vite, nous voici écartelés entre la certitude que le respect est nécessaire à la vie en commun et à notre humanité, et la sensation vague que celui qui l'exige mette en place une logique contraire. Respecter quelqu'un, respecter ses idées, respecter la loi, respecter ses engagements, voilà qui aurait pu être beau. Pourtant, imaginons que je veuille vous tenir en respect et me voici avec une arme. Imaginons que je vous tienne en respect ou que vous me deviez le respect et vous voici assujetti. Si le respect implique un assujettissement, il l'implique pour tous les humains. Tu respecteras ton père et ta mère est le premier des 10 commandements. Que signifie-t-il au juste ? Respecter, étymologiquement, c'est précisément regarder vers l'arrière. Et respecter ses parents pourrait bien signifier ne jamais oublier qu'on ne s'est pas fait seul, qu'on se situe dans une lignée. Respecter ses parents, ce n'est pas leur obéir, c'est reconnaître la dette qu'on a à leur égard. Reconnaître qu'on ne s'est pas fait tout seul, n'en déplaise au prétendu self-made man. Respecter ses parents, c'est reconnaître notre dépendance, non pas tant à l'égard de notre père ou de notre mère, mais à l'égard de nos ascendants, à l'égard de l'humanité dont on hérite et dont on a le devoir de se montrer digne. Se reconnaître fils ou fille, c'est s'inscrire dans le temps. Et, puisque chacun a père et mère, reconnaître une loi universelle, celle du temps qui nous assujettit tous et nous a fait tous mortels, tous incomplets. La loi qui nous humanise et nous fait foncièrement dépendants de l'autre, nous interdisant d'être des monades, c'est-à-dire des unités absolues. Mais voici que tout un tas d'individus se sont mis à exiger qu'on les respecte. Eh bien, allez-vous me dire, c'est tout de même bien normal de vouloir être respecté, non ? L'éducation, c'est même cela, allez-vous me dire, apprendre à respecter l'autre, à ne pas lui couper la parole, à ne pas ignorer sa souffrance. Oui, être éduqué, c'est commencer par respecter l'autre, ne pas le nier. Oui, mais vous le voyez, le renversement. Lorsque l'un demande, voire exige le respect d'un autre, ce n'est pas qu'il témoigne du respect à l'autre, c'est tout l'inverse. Il exige le respect pour lui. Il y a comme un vol, oui, un vol. Celui qui exige le respect prend une place qui ne peut pas être occupée, une place qui est nécessairement vide, la place d'une transcendance, de ce qui nous précède, la place d'un au-dessus des humains, place de la loi à laquelle on a pu donner pour en mettre en lumière le caractère sacré, le nom de Dieu. Celui qui exige le respect, celui qui interdit le blasphème et interdit qu'on le contredise, se considère inattaquable et surtout tel Dieu entier. Celui qui demande le respect postule, au rebours de la signification du mot respect, qu'il est complet. Il exige de l'autre qu'il le reconnaisse comme entier, inaltérable, à prendre tel quel. Bien, allez-vous me dire, tellement quelque chose de notre société a vrillé. Pourquoi ne faudrait-il pas prendre les gens comme ils sont, respecter leurs croyances, leurs spécificités, leur liberté ? Quid de la tolérance ? Oui, mais le respect ne s'exige pas. On ne peut pas justement exiger le respect de sa propre complétude. Si le respect est inscrit dans le premier commandement, ce n'est certainement pas pour inviter à respecter la religion, et encore moins pour que certains, s'arrogeant on ne sait pourquoi, le droit de représenter Dieu sur terre, s'octroient un pouvoir divin. Si le respect de la filiation est le premier commandement, c'est précisément pour inscrire, comme loi pour les humains, une semblable incomplétude, une égalité dans l'incomplétude, une imperfection que les textes sacrés, écrits par de sages humains à travers les siècles, opposent à la perfection divine, c'est-à-dire à ce qui n'est pas de l'ordre de l'humain, à ce qui n'est le propre d'aucun humain. Pour le dire encore autrement, ce qui doit être respecté entre nous les humains, c'est notre vulnérabilité. Ce qui doit être respecté, c'est l'humanité dont nous héritons. Et s'il y avait une seule chose à faire fructifier, ce serait précisément cette humanité. Wajdi Mouawad, dans sa leçon inaugurale au Collège de France le 6 février 2025, définit ainsi le respect comme « papier hygiénique pour éviter toute contamination par l'autre ». Exiger le respect, c'est détester l'autre. Qui exige le respect, non seulement se prend pour un dieu, mais exige avant tout le silence de l'autre, son renoncement à l'esprit critique. « Tu me prends en entier ou pas ?» semble un préalable à toute discussion. Étrange. Étrange, oui, parce que ce qui est exigé là n'est pas une demande, c'est un ordre. C'est un ordre même au sens le plus chronologique du terme. Un « d'abord tu me reconnais » pour que je te reconnaisse, peut-être, ensuite. Mais pourquoi ? Pourquoi au contraire ne serait-ce pas un « d'abord je te reconnais » ? On voit bien ce que cette démonstration a de fondamentalement enfermant dans son jeu infini de miroir. Telle une balle de ping-pong, le respect a vite fait de s'exiger premier pour l'un ou l'autre et on n'en sort pas. Parce que le respect n'est pas un jeu qui peut se jouer à deux. Le respect suppose une asymétrie première, ce qui, en droit, ne peut pas être le cas entre deux êtres humains. Nul ne peut exiger le respect de l'autre à moins de vouloir imposer une inégalité, une soumission ou un enfermement sans fin. Exiger le respect, c'est d'emblée interdire tout dialogue et refuser toute remise en question. Nul ne peut exiger le respect de l'autre avant d'avoir témoigné son respect de l'autre, c'est-à-dire avant de s'être reconnu incomplet, imparfait et défaillant devant l'autre. Car sinon, le respect n'est qu'une forme déguisée, particulièrement insidieuse et violente de négation de l'autre. Car sinon, le respect ne fait qu'intimer le silence à celui qui n'est pas d'accord, celui qui refuse de me prendre en bloc et de tout accepter de moi d'abord. Exiger le respect est devenu l'arme de ceux qui, se prenant pour des dieux, ne reconnaissent au-dessus d'eux nulle loi. L'étendard de moi puissant et avide de toujours plus de pouvoir, ne se sentant redevable de rien à personne, de ceux qui, pour le dire autrement, n'ont qu'un désir, prendre la place d'une autorité divine, autorité indiscutable que nul humain ne possède, que les humains appellent Dieu, ou loi, ou au-dessus, nom dont précisément personne n'est le maître, nom qui, parce qu'il désigne précisément un innommable, ouvre à un infini dialogue et à une égalité entre les humains dont aucun n'a le droit de devenir le tyran privé ou public. En d'autres termes, le mot respect est ce flingue mis sur notre tempe par ceux qui se proclament au-dessus des lois et ne se soumettant pas à l'ordre du langage dont ils se veulent les maîtres, exigent de nous un silence dont ils se voudraient aussi les maîtres. Sous couvert d'une acceptation de la différence, le mot respect implique un refus absolu de l'altérité et exige une soumission de l'autre à une autorité à laquelle on refuse soi-même de se soumettre. C'est ce qu'en psychanalyse on appelle perversion. Et il est, en effet, particulièrement pervers de se croire à ce point maître des mots qu'on s'octroie le pouvoir de les dévoyer à son profit. I've got big balls, and he's got big balls, and she's got big balls.